Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Du trisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
du trisac.
Luc Tassé est avec nous pour parler de politique étrangère. Monsieur Tassé, bonjour. Monsieur Tassé, bonjour. Monsieur Tassé, bonjour. Monsieur Tassé a raccroché ou on a échappé la ligne ou arrêtez de jouer à Candy Crush, sacramouille, occupez-vous donc des crèves-cœurs un peu. Bon, ben, il veut nous parler des derniers jours, ce qu'on apprend de l'insurrection de mercredi dernier. En passant, c'est mercredi prochain hein, que Donald Trump ne sera plus président des États-Unis. Luc Tassé, rebonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous, M. Tassé.
Ben, ça fait plaisir quand on m'appelle.
Alors, ce qui arrive sur le, ce qu'on apprend sur l'insurrection de mercredi dernier?
Ben, on apprend des choses nouvelles qui donnent assez froid dans le dos, parce que le FBI, tous les services de sécurité et de renseignement sont là-dessus. On apprend que des manifestants voulaient littéralement assassiner des élus. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils n'en ont pas trouvé. Donc, ça devient encore pire que ce qu'on pensait. Je t'avais dit qu'ils voulaient prendre des otages. Ça implique évidemment de les tuer éventuellement, mais maintenant, on voit que non. Ils voulaient aussi, pour l'exemple, en exécuter un certain nombre. Et ça pose un problème. On apprend aussi que l'Iran, la Russie et la Chine ont tout fait pour propager ce que Trump disait, pour exciter davantage la population dans les médias sociaux. Et donc, il y a ça aussi qui ressort maintenant. Et troisième chose qu'on apprend aussi, c'est que Trump voulait marcher avec les manifestants et entrer au Congrès avec eux. Qu'est-ce qui l'a empêché de faire ça? Ses propres gardes du corps qui ont dit « Écoutez, monsieur le Président, on ne pourra pas assurer votre sécurité si vous faites ça. Ça va être impossible. » Alors là, Trump a eu peur, puis il s'est dit « Bon, d'accord, j'irai pas.
» Écoute, c'est un gros matamor, hein. On ne sait pas si il serait allé pour le vrai, là. C'est une grosse pâte molle, là. C'est un fils à papa, là, Donald Trump, là. Il a pas fait des arts martiaux mixtes, lui, dans la vie, là. faut pas l'imaginer comme...
Que te dirais ces femmes, ou peut-être les aventures qu'il a eues dans les hôtels en Russie, je sais pas.
Ouais. Des aventures bien arrosées, quand même, paraît-il.
Bien arrosées, bien entendu.
Ouais, je t'en prie, c'est beau, c'est assez. Alors, le plan de relance de Joe Biden est dévoilé.
Oui, c'est sorti finalement, on en avait parlé hier, c'est un peu plus que ce qu'on avait dit. On parle de 1900 milliards de dollars et c'est vraiment de l'aide très très importante, 20 milliards pour le vaccin, des milliards de dollars pour aider les gens qui pourront pas payer leur loyer, aussi bien des individus qui pourront pas payer leur loyer pour leur logement que des entreprises, que des magasins qui sont pas capables de payer leur loyer, de l'argent qui va aussi aller dans des centres communautaires, parce que les centres communautaires sont très établis là où il y a beaucoup de minorités, des latino-américains, des noirs, etc. Donc beaucoup d'argent pour ces endroits-là. Dans les prisons aussi, on va donner beaucoup d'argent. Une aide d'urgence à 105 millions de personnes, et ça aussi c'est très très important. Donc c'est un plan qui cherche non seulement à aider les Américains qui sont victimes de la COVID-19, mais aussi à essayer de sortir un certain nombre d'Américains de la pauvreté. Mmh. Alors, 12 millions d'Américains. Et entre autres choses, il a annoncé, ça fait pas partie de son plan comme tel, si tu veux, directement, mais indirectement, Biden a annoncé qu'il voulait doubler le salaire fédéral minimum et le faire passer à 15 dollars de l'heure. Donc, ça fait partie de ce vaste élan, une espèce de New Deal à la Biden, en fait, dont on est en train de voir les contours, que Biden essaie de lancer. Et effectivement, les classes moyennes, et encore plus les plus pauvres aux États-Unis, sont depuis ont perdu du pouvoir d'achat depuis 1980. Et donc, c'est ce qu'il essaie de faire. Ça va avoir des répercussions non seulement aux États-Unis, s'il y parvient, ça va faire augmenter les salaires aux États-Unis, tous les salaires, mais aussi au Canada. Il faut s'attendre à ça aussi.
Bon, et le gouvernement travailliste des Pays-Bas qui démissionne, pour quelle raison?
Un scandale fiscal incroyable, un scandale fiscal et raciste. Figure-toi que il y a 11 000 familles qui recevaient de l'argent, de l'aide familiale, tu sais, pour les enfants, qui ont été faussement accusées de fraude envers le gouvernement. Et déjà, c'est ignoble d'accuser des familles de fraude alors qu'elles ne fraudent pas. Souvent, c'est les gens qui en ont le plus besoin, tu sais, qui sont accusés de ça. Mais non seulement elles se sont fait accuser ces familles de ça, et ça, ça s'est produit entre 2013 et 2019, mais en plus, on s'est rendu compte que la plupart des familles visées étaient visées en raison de l'origine ethnique des parents. Mmh. Les fonctionnaires regardaient le nom, puis quand ils voyaient que c'était pas un nom hollandais, tiens, tout de suite, ils faisaient, pas une enquête, je te dirais, ils accusaient ces familles-là de recevoir trop d'argent pour les enfants, etc. Le gouvernement, on a su ça à cause d'une enquête, une enquête parlementaire qui a révélé ça en décembre dernier. Et donc, le gouvernement hollandais a décidé de verser 30 000 euros de dédommagement à chaque parent concerné. C'est presque 50 000 dollars. Et puis, ils sont aussi, il y a un regroupement de 60 familles qui est allé devant la cour, qui a réussi à démontrer que les fonctionnaires faisaient les fonctionnaires de l'impôt faisaient du profilage racial. Donc, le gouvernement du premier ministre Mark Rutte a décidé de reconnaître sa responsabilité là-dedans et de démissionner.
Ça, c'est du racisme systémique.
De démissionner?
Non, d'identifier,
ah oui, là, oui,
d'identifier
oui,
les
oui,
familles
oui.
selon leur nom, leurs oui, origines oui. ethniques, et de les punir en fond. Ça, c'est du racisme systémique. Ça, c'est réel.
Ça, c'est très réel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm-hmm. Et c'était à une échelle, une grande échelle aussi. Ça s'est pas fait, c'est pas un ou deux fonctionnaires qui ont fait ça de temps en temps. Là, on parle de quelque chose, effectivement, qui était très, très bien implanté. Alors, le gouvernement, là-dessus, évidemment, dit c'est épouvantable. C'est nous qui étions au gouvernement. C'est nous qui, donc, avons à assumer cette responsabilité. Et il démissionne. Mais attention, en Hollande, quand un gouvernement démissionne, il peut quand même rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait des élections ou jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement qui soit choisi par les partis qui sont au Parlement. Et tiens donc, les élections arrivent le 17 mars. Donc, bien entendu, le gouvernement démissionne, mais dans les faits, il va rester au pouvoir jusqu'au 17 mars, parce que on n'a pas le temps vraiment de choisir un nouveau gouvernement. Et en fait, Mark Rutte est en quête d'un quatrième mandat depuis 2010, et il se fait chauffer les fesses. Son parti travailliste a 30% des voix. Mais qui vient derrière, devine? C'est un parti qui est un parti anti-islam, le PVV, de Geert Wilders. Il lui arrive en seconde place avec 15% des voix. Et donc, bien sûr, il se drape, n'est-ce pas, dans l'indignation, ce gouvernement, en disant c'est terrible, etc. Mais malheureusement, derrière ça, il y a aussi peut-être une manœuvre électorale qui vise à dire, à montrer que ce parti... J'allais dire est plus blanc que blanc, mais ça serait une très mauvaise expression.
Ouais.
dans le sujet dont on parle.
Plus blanc que blanc, oui. Avant qu'on se quitte...
Tu sais qu'il est plus responsable ouais. que tous les autres partis.
Avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur cette prévision des chercheurs chinois.
Si tu veux, c'est une prévision qui est assez triste. C'est Xu Jianguo, qui est un bactériologiste très très réputé en Chine, qui faisait partie des premières équipes envoyées à Wuhan. C'est lui en fait qui s'occupe de toute la lutte en Chine contre la COVID-19. Et lui dit non, attention là, avec les variantes du nouveau virus, le taux de mortalité qu'on avait à 2,1% va augmenter, il va être à 3% selon les modèles qu'on a fait à cause de toutes les mutations. Et pire que ça, ça va devenir très difficile de lutter contre le virus parce qu'il va demeurer caché dans plusieurs populations autour du monde en raison de ces mutations. Et donc, attention, on l'a pour longtemps ce virus, et moi je rajouterais, finalement, ça va être comme la grippe, à moins qu'on trouve un vaccin polyvalent. Heureusement, il y en a qui sont en développement. Ça pourrait arriver d'ici la fin de l'année, mais lui prévoit donc ce chercheur que 2021 pourrait être pire que 2020, en tout cas la première partie.
À cause des mutations du virus, là.
À cause des mutations du virus, exactement.
Bon, et ça finit mal la semaine.
C'est une bonne nouvelle! Regarde la suivante.
Vas-y.
Il y a un rabbin qui explique les dangers qui sont liés au vaccin de la COVID-19. Ça pourrait rendre homosexuel. C'est le rabbin Daniel Azor en Israël qui a sorti cette bêtise-là. En fait, pour lui, le coronavirus et le vaccin, ça fait partie d'une vaste machination. Bon. Et lui, il explique très scientifiquement, n'est-ce pas, ce rabbin, que si le vaccin provient de cellules femelles injectées à un homme ou de cellules mâles injectées à une femme, alors il pourrait transformer la sexualité des sujets en leur opposé, en leur genre opposé.
Bon, c'est assez. C'est complètement débile. Ça arrête pas. OK, là, t'as assez. Merci. À lundi.
Salut. Bye.